Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Morgan Guerriec et Eric Manirakis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 30 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
RDC, les délégués au dialogue national engagent des négociations directes pour accélérer la signature d'un accord.
Lutte contre le terrorisme, l'armée nigérienne affirme avoir tué 123 terroristes et perdu 14 soldats depuis juillet dernier.
La France demande une enquête sur l'utilisation d'armes chimiques au Soudan.
Les violences au Burundi, le Conseil des droits de l'homme crée une commission d'enquête.
Au Burkina, abandon de certains chefs d'accusation retenus contre Blaise Compaoré en raison d'un vide juridique sur la qualification des infractions qu'on lui reprochait.
La crise en Syrie, plus de 3800 civils tués et 20 000 blessés par l'aviation russe il y a un an selon l'OSDH.
Présidentielle américaine, le quotidien USA Today rompt avec sa tradition dans son éditorial titré « Ne votez pas Trump ».
L'économie et les sports.
Juste après le journal Morgan. La majorité des partis d'opposition prenant part au dialogue national en République démocratique du Congo disent avoir engagé ce vendredi des négociations directes sur les points de divergence relevés dans le projet d'accord. Ces assises sont toujours boycottées par les partis réunis au sein du rassemblement de l'opposition. De Kinshasa, les précisions de Roger Kalala de notre station partenaire Top Congo FM.
C'était une brève séance vendredi pour mettre en place une équipe de 13 personnes, 5 délégués côté majorité comme côté opposition et 3 membres de la société civile. Cette équipe va tenter de réfléchir sur l'élaboration d'un calendrier électoral après les explications du président de la Commission électorale nationale indépendante. D'après le sénateur Léonard Che Okitundu, délégué de la majorité présidentielle, cette équipe va travailler pour relever les points de convergence et des divergences dans les 3 rapports déposés respectivement par la majorité, l'opposition et la société civile. À l'opposition, on ne cesse d'insister pour le respect de la Constitution. Pour les modérateurs de cette composante vitale camerée, l'accord qui doit être signé ne sera complet que quand il reprendra clairement qu'il n'y aura pas référendum et que la Constitution ne sera pas modifiée pendant la période intérimaire. La plénière s'est tenue sans les représentants de l'Église catholique qui a suspendu sa participation. Kinshasa, Roger Kalala, Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
Au sujet de la RDC toujours, Bosco Ntaganda comparaît de nouveau devant la Cour pénale internationale. L'ex-chef de guerre congolais, jugé pour crime contre l'humanité, a mis fin la semaine dernière à sa grève de la faim après 2 semaines. C'était pour protester contre ses conditions de détention.
Le Pentagone a confirmé un investissement très important dans une base aérienne militaire à Agadez. Dans le centre du Niger, une base qui leur permettrait de continuer leur déploiement de drones. Claire Morin-Gibault.
La base aérienne d'Agadez va bénéficier d'un financement de plusieurs dizaines de millions de dollars afin de la doter d'une nouvelle piste d'atterrissage et d'infrastructure. Le site d'Agadez restera toutefois une base nigérienne et n'est pas destiné à devenir une base américaine comme celle de Djibouti, l'unique base permanente américaine sur le continent africain. C'est ce qu'a précisé le Pentagone. Selon The Intercept, le Niger est le seul pays de la région à accepter d'accueillir des drones américains MK9 qui peuvent être armés. Un positionnement stratégique puisque cela permettra également des opérations au Tchad, en Libye et au Nigeria. Pour Adam Moore, un expert de l'université californienne UCLA, spécialiste de l'Afrique, on peut noter un plus grand engagement américain et une présence plus permanente en Afrique de l'Ouest, au Maghreb et au Sahel. Il précise que cet investissement à Agadez suggère que le Niger est en train de devenir le 2e pays africain le plus important pour les opérations antiterroristes américaines.
14 soldats nigériens et 123 terroristes ont été tués dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger. Tel est le bilan avancé par l'armée nigérienne. Une opération de ratissage est menée depuis début juillet par les militaires du Niger et du Tchad.
Burkina Faso, l'ex-président Blaise Compaoré ne sera pas poursuivi pour haute trahison ou attentat à la Constitution en raison d'un vide juridique. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la Haute Cour de justice. L'ex-homme fort du Burkina reste toutefois poursuivi en tant que ministre de la Défense pour la répression des journées d'insurrection d'octobre, ainsi que dans le cadre du dossier de la mort de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, tué en 1987 lors d'un coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Blaise Compaoré vit aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire depuis l'insurrection populaire qui a mis fin à ses 27 ans au pouvoir sans partage en 2014.
Et concernant le Burkina toujours, cette dernière sortie des avocats de Djibril Bassolé, maître Alexandre Varro affirme que l'ex-chef de la diplomatie de l'ancien président Blaise Compaoré est un prisonnier politique. Il doit bénéficier d'un non-lieu, estime-t-il. Djibril Bassolé est incarcéré, souvenez-vous, depuis un an pour son rôle présumé dans le putsch manqué de septembre 2015. Monsieur Varro a accusé les autorités burkinabées de manipuler ce dossier contre son client, qui avait vu sa candidature rejetée lors de la présidentielle de 2015, remportée par le président Roch-Marc Christian Kabore.
Burundi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé une commission chargée d'enquêter sans délai sur les violations des droits de l'homme commises dans ce pays depuis avril 2015. Une résolution en ce sens, proposée par la Slovaquie au nom de l'Union européenne, a été approuvée par 19 voix pour, 7 contre, dont celle de la Russie et 21 abstentions.
Au Gabon, Mbanja, un hebdomadaire, a été suspendu pour un mois pour un article publié le 20 septembre évoquant des escadrons de la mort à l'œuvre pendant le pic des violences post-électorales de fin août.
La région autoproclamée semi-autonome du Galmoudug en Somalie accuse la région rivale du Puntland d'avoir dupé les forces américaines pour qu'elle lance une frappe aérienne dans laquelle 13 de ses soldats ont été tués et 7 blessés. Le point avec Nanit Talani.
Selon un communiqué du commandement militaire américain pour l'Afrique, les Somaliens ont mené une opération de contre-terrorisme pour démanteler un réseau Shebab chargé de placer des engins explosifs improvisés. Puis, un groupe de combattants Shebab a lancé une attaque menaçant la sécurité des troupes somaliennes et de leurs conseillers américains. Les forces somaliennes ont répliqué en tirant pour se défendre. De leur côté, les États-Unis ont mené une frappe d'autodéfense pour neutraliser la menace, tuant 9 combattants ennemis. Nous suspectons l'État du Puntland de Somalie d'avoir délibérément fourni de fausses informations pour s'assurer que l'attaque ait lieu dans son propre intérêt, a déclaré hier le ministre de l'Information du Galmoudug, Mohamed Adan Osman. Il n'était pas possible de déterminer si la frappe en question était simplement due à une identification erronée des cibles ou est liée à l'hostilité qui oppose les deux régions voisines.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président Barack Obama et des leaders du monde entier ont pris part aujourd'hui aux obsèques de l'ancien leader israélien Shimon Peres, décédé mercredi des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 93 ans. Les précisions de Lionel Gaïma.
À la tête d'une délégation de 32 personnalités américaines, y compris l'ancien président Bill Clinton et le secrétaire d'État John Kerry, Barack Obama a rappelé le constant engagement de Shimon Peres pour la paix. La Knesset, les chefs d'État et les invités du monde entier, y compris le président Abbas, dont la présence ici témoigne de la quête inachevée de paix. Au peuple d'Israël, je ne pouvais pas être plus honoré de venir à Jérusalem, dire adieu à mon ami Shimon Peres, qui nous a montré que la justice et l'espoir sont au cœur du sionisme, a déclaré le chef de l'exécutif américain. Par sa présence à ces obsèques, le président palestinien Mahmoud Abbas espère envoyer un message fort à la société israélienne que les Palestiniens sont pour la paix et apprécient les efforts d'hommes de paix comme Shimon Peres, a fait savoir de son côté un responsable palestinien. Le dirigeant palestinien et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont échangé une poignée de main à ces obsèques. Un des pères fondateurs d'Israël, Shimon Peres, a pratiquement occupé tous les postes politiques au cours de sa longue carrière, siégeant pendant 48 ans à la Knesset, le Parlement israélien.
Lionel Gaïma, en Syrie, plus de 3 800 civils ont été tués, 20 000 blessés par l'aviation russe, depuis le début, il y a un an, de son aide à Damas. Affirmation de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OCDH, basé à Londres. Le Kremlin a rejeté ces accusations.
Par ailleurs, le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont condamné avec force les raids aériens barbares des Russes et du régime syrien sur l'est d'Alep, selon leurs propos. L'avancée de l'armée syrienne survient au moment où les États-Unis et la Russie, parrains respectifs de l'opposition et du régime, sont au bord de la rupture sur le conflit qui ravage le pays depuis 5 ans.
Le pape François a appelé aujourd'hui à la coexistence entre les peuples dans le Caucase et prié pour l'Irak et la Syrie devant la petite communauté assyro-chaldéenne à Tbilissi, première étape d'un court voyage dans la région avant l'Azerbaïdjan dimanche.
Le chef de l'opposition turque Kemal Kılıçdaroğlu s'est insurgé ce vendredi contre le maintien de l'état d'urgence instauré après le putsch avorté de juillet. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Chaîne sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco donc, avec Nanit Talani.
À partir de demain samedi, le yuan, la devise chinoise, fera officiellement partie intégrante de l'unité de compte du Fonds monétaire international, baptisée droit de tirage spéciaux, où il rejoindra les monnaies américaines et européennes, la livre britannique et le yen japonais. Le renminbi, autre nom du yuan, devrait toutefois en profiter pour poursuivre son internationalisation naissante et pourra désormais atterrir dans les caisses des pays placés sous assistance financière du FMI. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a plaidé pour un renforcement du soutien à la Tunisie pour répondre à la profonde crise économique que traverse le pays, selon une communication conjointe datée d'hier jeudi. L'objectif est d'augmenter l'assistance financière bilatérale à 300 millions d'euros jusqu'en 2020. L'aide cible le développement socio-économique et la lutte contre le chômage, conformément aux priorités du plan de développement 2016-2020 présenté cette année par le gouvernement tunisien. Ici aux États-Unis, la Commission de sécurité et d'échange a annoncé aujourd'hui que le Capital Management Group, OCH ZIF, va lui verser près de 200 millions de dollars en réparation des dommages civils qu'il a causés en violation de la Foreign Corrupt Practices Act, loi sur les pratiques de corruption étrangère. Une enquête avait permis de constater que des intermédiaires, des agents commerciaux et des partenaires d'affaires étaient utilisés pour payer des pots de vin à des fonctionnaires de haut niveau en Afrique, notamment en Libye, au Tchad, au Niger, en Guinée et en RDC, pour obtenir, entre autres, des droits miniers.
On enchaîne avec les sports. Ce soir, c'est Timothée Donangmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Eric.
On va commencer par le football européen. Retour sur les matchs de la Ligue Europa de jeudi soir. C'était hier.
Eh oui Eric, Manchester United a défait les Ukrainiens de Zorya Luhansk, 1-0. Un but Eric qui devait être marqué par Wayne Rooney mais qui a manqué son tir. Et c'est Zlatan Ibrahimovic qui a récupéré la balle pour inscrire. Deuxième défaite d'affilée d'Inter Milan qui s'est inclinée 3-1 face au Sparta Prague. La Fiorentina a mitraillé Karabakh d'Azerbaïdjan 5-1. Dont 3 buts en l'espace de 8 minutes, y compris 2 du Sénégalais Kouma Babacar. Et puis Mario Balotelli a marqué jeudi, mais n'a pas pu empêcher la défaite de Nice 5-2 contre le club russe de Krasnodar. L'Ajax a battu Standard de Liège 1-0 et Shakhtar Donetsk réduit à 10 est tout de même venu à bout de Braga. 2-0.
Un coup de maître. Team tennis masculin avec l'Open de Shenzhen.
Alors, on jouait les quarts de finale à ce tournoi chinois. Le Tchèque Thomas Berdych a décroché son billet pour les demi-finales en battant son compatriote Yiri Vesely en 3-7, 7-6, 3-6 et 6-2. Victoire du Brésilien Thomas Bellucci 1-7, 6-2 et 6-2. C'était contre l'Australien Bernard Tomic. Défaite toujours à Shenzhen du Tunisien Malek Jaziri. 7-6 et 6-2 face au Serbe Janko Tipsarevic. Et victoire du Français Richard Gasquet en 2-7, 7-6, 7-6. C'était contre l'Allemand Misha Zverev.
Soulignons, Tim, que la Maison-Blanche a honoré les champions olympiques américains du siècle dernier et ceux de Rio de Janeiro.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgane Diriek et Eric Maniarakis en votre compagnie. Place au dossier du jour.
République démocratique du Congo, Morgane. Après une brève séance, le facilitateur du dialogue national, Edem Kodjo, a annoncé que les travaux sont reportés pour samedi en raison de l'absence du président de la CENI. La société civile et l'Église catholique n'ont pas assisté non plus à cette séance. Éclair Dosso, vendredi, la conférence épiscopale nationale du Congo a dit à VOA Afrique qu'elle ne reprendra le dialogue que lorsque tous les acteurs politiques seront autour de la table et refusera tout accord qui ne stipulerait pas que Joseph Kabila n'obligera pas un nouveau mandat. Nathalie Barge a joint le représentant de la CENCO au dialogue, l'abbé Donatien Ntchole.
On parle avec les uns les autres, c'est-à-dire les délégués de ceux qui sont au dialogue et l'opposition qui est dehors, pour les amener, nous espérons, sur une table. Le rassemblement de l'opposition va commencer un conclave. La conférence épiscopale prépare les messages, un communiqué à donner à ceux qui sont au dialogue, qui sont en conclave, afin d'arriver à un consensus large à partager. C'est la seule condition de la paix aujourd'hui.
Mais donc, est-ce que cela veut dire que vous tenez à faire revenir le mouvement rassemblement autour de la table?
Oui, c'est la mission que la conférence s'est donnée.
Est-ce que vous pensez que vous arriverez à les convaincre? Parce qu'ils ont été assez fermes de ce côté-là tout de même.
Ben, on a écouté les autres, comme dit, on aura aussi un message et on verra comment les uns les autres vont réagir.
Quelle est votre position aujourd'hui, du moins la position de l'Église? Est-ce que vous demandez toujours à ce qu'il soit stipulé clairement que Joseph Kabila ne va pas se représenter?
Pour la CENCO, c'est une des conditions pour prendre au sérieux un accord politique. Quand c'est clairement établi et stipulé que le président Kabila ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle.
Et en ce qui concerne les élections,
la Conférence nationale du Congo pense que le délai d'une année est raisonnable.
On sait tout de même que jusqu'ici, la plupart des acteurs au dialogue national, sauf la majorité, refusent de signer un projet d'accord. Est-ce que vous êtes dans cette situation-là?
La CENCO ne signera pas un accord qui n'engagera pas l'ensemble des acteurs politiques. Au cas où l'ensemble des acteurs politiques est d'accord, la CENCO ne signerait pas ou n'approuverait pas un accord qui ne respecte pas le cadre constitutionnel, particulièrement les articles verriers, dont la permanence politique.
Est-ce que vous-même, vous pensez que Edem Kodjo fait l'affaire pour le dialogue ou est-ce que vous le contestez également comme beaucoup d'acteurs du dialogue?
Edem Kodjo n'est pas un problème capital, mais c'est un général qui ne l'accepte pas. C'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir sur un mécanisme qui arriverait à impliquer l'opposition.
Abbé Donatien Ntchole, secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo à Kinshasa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Et c'est une fin digne d'Hollywood pour une mission historique. La sonde européenne Rosetta a bouclé sa mission aujourd'hui après une odyssée spatiale de plus de 12 ans pour tenter de percer les mystères de la formation du système solaire. Rosetta s'est écrasée volontairement ce vendredi sur la comète Chury. La sonde a récolté une abondante moisson de données. Pour en savoir plus, Jacques Aristide s'est entretenu avec le responsable de la mission Rosetta à l'Agence spatiale française, Francis Rocard.
La mission Rosetta est une grande mission de l'Agence spatiale européenne qui a été décidée dans le milieu des années 90, qui a été réalisée pendant une dizaine d'années et lancée en 2004. Et 10 années de croisière nous a permis d'arriver à l'été 2014 au voisinage d'une comète qu'on appelle 67P Churyumov-Gerasimenko. Et depuis 2 ans, Rosetta étudie cette comète dans ses moindres détails, depuis une distance lointaine du Soleil jusqu'à son passage au Périhélie en août 2015, c'est-à-dire au moment où la comète est la plus active. Et depuis août 2015, nous nous éloignons à nouveau du soleil, et tellement loin que les problèmes de ressources d'énergie solaire ont obligé l'Agence spatiale européenne à provoquer un atterrissage forcé de Rosetta sur la comète, ce que nous avons vécu aujourd'hui même.
Quelle était sa mission en fait ?
La mission Rosetta avait pour objectif d'étudier l'émergence de l'activité d'une comète. C'est pour ça que le rendez-vous avec cette comète était relativement loin du Soleil à l'été 2014. Et petit à petit, on a vu l'activité, la création de jets, de gaz et de grains, et d'étudier l'évolution de cette activité jusqu'à le passage au Périhélie et la suite. Et en plus, Rosetta avait à son bord un atterrisseur qu'on appelle Philae, un engin de 100 kg qui a été largué à la surface de la comète en novembre 2014 et qui, après un atterrissage un peu acrobatique, a fonctionné 3 jours sur la comète jusqu'à épuisement de sa pile.
D'après l'ESA, Rosetta a récolté une abondante moisson de données qui occuperont les scientifiques pendant des décennies. De quel genre de données s'agit-il exactement et comment vont-elles aider à percer les mystères de la formation du système solaire ?
Les comètes sont les objets les plus primitifs qui soient. Ils sont formés très loin du Soleil et ces objets n'ont jamais chauffé. La preuve, c'est qu'ils sont extrêmement riches en glace. Ces objets ont été maintenus au congélateur depuis 4,6 milliards d'années. Voilà.
Au bout du compte, c'est pour aider les scientifiques qui s'interrogent sur le rôle que les comètes ont pu jouer dans l'apparition de la vie sur Terre, n'est-ce pas ?
On a également cet objectif, effectivement. Les comètes sont les objets les plus riches en carbone et les plus riches en eau du système solaire. Et l'une des questions intéressantes, parce que nous savons par ailleurs que la Terre avait de l'eau primordiale au moment de sa formation, mais cette eau a probablement disparu en tout ou partie.
Voilà, c'était Francis Rocard, responsable de la mission Rosetta à l'Agence spatiale française, l'un des membres de l'ESA, est en ligne à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Proche-Orient, l'ancien Premier ministre Shimon Peres est mort à l'âge de 93 ans. Il a été enterré aujourd'hui en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président américain Barack Obama et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Figure emblématique de l'État d'Israël, Shimon Peres aura marqué l'histoire de son pays, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale, mais aussi la colère de beaucoup de Palestiniens. Salwa Jafari.
Shimon taram rabot levitzur kochenu. Aitalo.
Le nom de Shimon Peres sera toujours gravé dans les annales de la lutte de notre peuple pour l'indépendance, comme l'un des grands chefs de l'État d'Israël, comme l'un des pères fondateurs qui ont créé l'État d'Israël. Que sa mémoire soit toujours au cœur de notre nation.
C'était quelques mots prononcés par le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou. Shimon Peres était l'un des derniers hommes politiques issus de la génération des fondateurs d'Israël.
Nous n'avons pas beaucoup de rivières. Nous n'avons pas beaucoup d'eau et c'est extrêmement essentiel pour le développement des pays. Ce n'est pas la guerre qui nous inquiète, mais l'effort évité de guerre.
Oui, Shimon Peres est le dernier des 3 lauréats du prix Nobel de la paix décerné pour les accords d'Oslo à s'éteindre. Ces accords, signés en 1993 à Washington, puis en 1995 à Taba en Égypte, visaient un règlement global et durable du conflit entre Israéliens et Palestiniens et avaient suscité un immense espoir à travers le monde. Ces accords sur l'autonomie sont le premier texte ratifié par les deux camps qui s'affrontent depuis 1948, date de la création d'Israël. Les Palestiniens l'appellent Nakba, la catastrophe en arabe. Beaucoup de Palestiniens ne l'ont pas oublié. Saber Farage, un résident de Ramallah.
Le monde regarde d'un œil et en gardant l'autre fermé. Comment un homme de paix peut-il tuer des enfants ? Comment peut-il obtenir la puissance nucléaire ? Parce que c'était lui qui a obtenu les armes nucléaires pour Israël.
Le Hamas est du même avis. Du côté de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas a tenu à assister aux funérailles.
Oui, je pense qu'il faut trouver une solution démocratique, libérale et responsable pour les deux peuples, pour le peuple arabe et pour le peuple israélien.
Pour beaucoup, le nom de Shimon Peres restera synonyme de paix. Plusieurs chefs de gouvernement ont fait le déplacement pour assister aux funérailles, y compris Barack Obama et Tony Blair. Le 8 juin 2014, un mois avant la fin de son mandat, Shimon Peres s'était rendu au Vatican avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le pape François. Ils ont planté ensemble un olivier, symbole de paix.
Présidentielle américaine 2016, vive colère de Donald Trump qui s'en est pris sur Twitter à Miss Univers 1996, Alicia Machado, invitant le public à consulter une vidéo sexuelle de cette femme. Le point avec Timothée Donangmaï.
Alicia Machado, une ancienne reine de beauté vénézuélienne, aujourd'hui naturalisée américaine, a provoqué l'ire du candidat républicain lundi, en l'accusant de l'avoir soumise à des traitements humiliants du temps où l'homme d'affaires était propriétaire du concours Miss Univers. Démocrate et partisan d'Hillary Clinton, Machado a expliqué que Donald Trump l'avait surnommée Miss Peggy la cochonne, et Miss Housekeeping, Miss Femme de ménage, pour avoir pris du poids du temps où elle était Miss Univers. La candidate démocrate Hillary Clinton avait parlé de cette affaire lors du premier débat lundi, expliquant qu'il est dans les habitudes de son adversaire républicain de mépriser les femmes. Hillary Clinton a-t-elle aidé la dégoûtante Alicia M. à devenir citoyenne américaine afin de pouvoir s'en servir lors du débat? S'est demandé Donald Trump dans un message sur Twitter à 5h30 ce vendredi matin. Le candidat républicain a aussi invité le public à regarder une vidéo sexuelle de Machado, en réalité l'extrait d'une émission télé-réalité où l'on voit Machado dans un lit avec un concurrent sans aucune scène de nudité. La candidate démocrate, elle, espère bien que cette affaire suscitera le courroux des électrices et les poussera à voter pour elle.
Contre l'avis de ses proches, le candidat républicain semble déterminé à évoquer l'infidélité de l'ancien président Bill Clinton, notamment du temps où il était à la Maison-Blanche, Tim.
Lors du premier débat lundi soir, Donald Trump avait pourtant dit qu'il s'était gardé de mentionner les aventures extramaritales de Bill Clinton parce que sa fille, Chelsea Clinton, se trouvait dans la salle. Le candidat républicain semble maintenant avoir changé d'avis. Jeudi, il a averti les électeurs qu'une victoire d'Hillary Clinton ramènerait à la Maison-Blanche les scandales sexuels de son mari. Les Américains en ont assez de ces années de corruption et de scandales, a-t-il lancé en rappelant la procédure d'impeachment engagée en 1998 par la Chambre des représentants du Congrès contre le président Bill Clinton en rapport avec l'affaire Monica Lewinsky et qui a échoué. Interrogé sur la possibilité que Donald Trump parle de l'affaire Lewinsky et d'autres dans les prochains débats, Hillary Clinton a répondu que son adversaire peut mener sa campagne comme bon lui semble et qu'elle continuera de parler des enjeux de la présidentielle. Depuis le premier débat lundi, l'ancienne secrétaire d'État s'est limitée à délivrer des messages positifs, estimant apparemment que le plus grand adversaire de Donald Trump, c'est Donald Trump lui-même.
Merci Tim.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Georges et Léonard Seigneur a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Nachouan Calais à la console. Présentation Morgane Guiriec et Eric Manilakitz.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.